Pendant le temps de louange et aussi le temps de témoignage, je me suis aperçue que quelques-uns ont repris l'image de l'histoire de ce matin. Et j'ai l'impression que le Seigneur me demande de nous poser la question, chacun pour soi, parce que moi je me la suis posée pour moi-même. Je vais essayer de revenir dedans là, j'ai une main qui est enflée. Lorsqu'on tient comme ça quelque chose, évidemment on ne peut plus sortir la main, c'est clair. Et la question peut-être que je crois le Seigneur me demande qu'on se pose chacun, c'est qu'est-ce que je tiens dans ma main qui m'empêche d'être libre. Je me la suis posée ce matin et je crois que le Seigneur me pousse à ce qu'on se la pose chacun. Qu'est-ce que je tiens dans ma main qui m'empêche d'être libre, qui m'empêche de sortir ma main de ce bocal? André parle souvent du TQP comme étant quelque chose qui nous aide à obtenir plus de liberté dans nos mouvements, de ne pas être coincé. Et je crois que c'est la même image. Et je crois que c'est personnel, chacun on sait quelles sont les choses auxquelles on s'accroche. Et j'ai bien aimé, je crois que c'est toi qui as dit tout à l'heure, ça peut être des habitudes de vie, ça peut être, oui c'est ça, ça peut être des comportements, ça peut être des habitudes de langage, ça peut être vraiment n'importe quoi, c'est différent pour chacun, c'est très personnel en fait, mais il y a certainement des choses, le Seigneur pourrait dire, lâche, et tu retrouveras ta liberté. Donc voilà, je vous le transmets, je pense que c'est chacun pour soi, il faut qu'on se pose la question. Je me la posais tout à l'heure en disant, mais c'est bien joli de l'enseigner aux autres, mais moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je lâche? Et on a tous certainement des choses comme ça qui nous bloquent et ça nous rendrait bien service de les lâcher. Donc c'est chacun décide pour soi-même. Je pense que ça, c'est vraiment entre le Seigneur et nous. Personne n'a le droit d'aller voir quelqu'un et lui dire, je sais qu'il faut que tu lâches ça. Parce que quelquefois, ce n'est pas toujours des choses visibles. Ça peut être des petites choses, mais quand même qui nous enlèvent notre liberté. Ah, c'est bien. Oui. Parce que... voilà, merci beaucoup. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté en parlant de David et de sa fronde. C'est l'histoire que tout le monde connaît. Et on avait dit, je ne sais plus exactement où je me suis arrêtée, mais que l'usage de la fronde demandait de l'expérience et de l'exercice. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est important de se rappeler ça parce que parfois quand on raconte l'histoire on a l'impression que c'est un peu la poudre de berlin-pimpin, un peu le truc incroyable, il prend les cailloux et pouf, pouf, et il a gagné. En fait derrière il y avait des années, des heures d'exercice, des heures d'essai aussi avec différents types de pierres. Vous avez vu quand David est allé à la rivière, il a choisi ses pierres, il n'a pas fait n'importe quoi. Et ça, c'est important. Il avait eu des tas d'occasions de mettre ça en pratique, de mettre son habileté en pratique. Il s'était attaqué à des ennemis beaucoup plus forts que lui, comme les ours et les lions. Je crois qu'en Israël, c'était des lions de montagne. Ce n'est pas les gros lions avec la grosse crinière. C'est comme on a aux États-Unis encore aujourd'hui, les cougars, les lions de montagne. Donc des ennemis beaucoup plus forts que lui, et il devait exercer des responsabilités envers les autres, ses parents, évidemment sa famille qui possédait les moutons, mais aussi envers les moutons eux-mêmes. Donc c'était pas complètement out of the blue, comme on dit en anglais, hein, c'est pas le truc qui lui est tombé dessus comme ça. Il était exercé, il était compétent, il avait de l'expérience. C'est pour ça qu'il ne faut pas se servir de l'exemple de David et Goliath comme d'un truc magique. Ah oui, je sais bien qu'on aime bien les miracles, etc. Tout le monde, c'est normal. Dieu en fait, merci Seigneur. Dieu peut faire des miracles absolus avec des gens qui n'ont aucune compétence. Ça, c'est déjà arrivé. Hein. Et heureusement, parce que parfois, on se trouve dans des circonstances où on n'a pas d'autre choix. Et je sais que Dieu peut nous donner ponctuellement une compétence. Je pense à cette missionnaire qui se retrouvait en Chine avec une énorme brûlure sur un enfant et elle n'avait aucune compétence médicale. Et Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui a dit de la mie de pain. Elle s'est débrouillée avec ce que Dieu lui a dit et l'enfant a guéri. Il lui a fait un cataplasme avec la mitzvah. Elle n'avait aucune connaissance. Mais bon, il y a des cas comme ça. Hein. Je pense à ce petit, ce vieux monsieur dont j'ai vu le baptême quand j'étais en Italie. Il se faisait baptiser dans de l'eau froide en plus. Et il avait expliqué qu'il avait un ulcère à la jambe. Il demandait la guérison, il demandait la guérison. Il a tenté un miracle de la part de Dieu. Et il n'avait aucune compétence médicale. Et puis il a lu dans sa Bible qu'Ézéchias avait été soigné avec des figues. Il en avait dans son jardin. Il a écrasé des figues, il l'a mis dessus, il a guéri. Donc il y a des moments comme ça où Dieu se sert, même si on n'a pas les compétences. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Ça, ce n'est pas un truc qu'on m'a raconté, je l'ai vu de mes yeux. Mais attention, il ne faut pas se servir de l'exemple de David et Goliath comme d'un truc magique. Le plus souvent, Dieu prépare ses enfants. Parce que lui, il connaît l'avenir, il connaît notre destinée. Et ce qu'on fait aujourd'hui nous prépare à ce qu'on fera demain. Et il faut, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les petites choses. Hein, je pense que les mamans qui ont élevé 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, elles ont appris énormément de choses. Je ne sais pas ce que Dieu leur réservera dans l'éternité quand il s'agira de gouverner des villes. Mais je pense que... elles savent beaucoup de choses, hein, après avoir élevé, surtout les familles nombreuses, encore plus que nous. Et ça joue. On verra ça quand on sera en l'éternité. Ce sera la surprise. Mais on dit toujours que ce sont les choses faibles du monde qui confondent les fortes. Hein. La Bible le dit, et nous on aime bien le répéter. C'est un thème constant dans la parole de Dieu. Mais attention, il ne faut pas considérer ça comme un truc pour réussir. Et moi, malheureusement, je parle de choses que je connais, que j'ai entendues. Et que j'ai vu mettre en pratique. Du style, c'est pas la peine d'étudier. Tu verras, tu pries, puis ça marchera. C'est pas la peine de travailler dur au boulot. De toute façon, on est exploité par les patrons. Donc, moi, en famille, on se porte, puis on prie, puis Dieu te donnera de l'avancement et de la promotion. Ouais. C'est pas la peine de bien se préparer, de bien éduquer les enfants. Tu pries, et puis ça passera. C'est pas la peine de bien faire les choses, de s'appliquer, de se fatiguer, non, non. J'ai entendu des choses comme ça, pas ici, mais dans mon enfance, je me souviens avoir entendu ça. Dieu fait tout, le Saint-Esprit fait tout, donc c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. C'est pas ce qu'a fait David. Qu'est-ce que Dieu aurait fait avec David s'il ne s'était pas exercé pendant toutes ces heures-là? Il aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre. Mais le problème... vous allez me dire, mais malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, moi, je me confie en Dieu. C'est vrai, c'est un verset que j'aime bien souvent citer. Mais le problème, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les études, ce n'est pas la préparation, ce n'est pas la quantité d'expérience qu'on accumule. Le problème, c'est où on met notre confiance. C'est là le problème. Vous savez que c'est la même chose avec l'argent. Est-ce que l'argent est une malédiction? Est-ce que l'argent est un problème? Mais non! Pas du tout. Mais c'est l'amour de l'argent qui devient un problème. Quand l'argent devient justement ce genre de chose auquel on s'accroche, dans lequel on se confie, et puis du coup on perd sa liberté. Et c'est la même chose pour tous ces domaines-là. On ne va pas dire que ce n'est pas la peine d'étudier, ce n'est pas la peine de se donner du mal. Mais on ne va pas dire non plus... avec tes études, en bossant, tu vas y arriver. Ça, c'est pas vrai non plus. Je me souviens de sœur Marie-Paul, pour ceux qui la connaissent, à l'Expo Bible, hein, j'ai travaillé avec elle pendant des années. Et elle m'a dit qu'elle était arrivée, elle a fait des études de mathématiques, elle était professeure de maths avant d'être bonne sœur. Et elle était arrivée au bac, elle était extrêmement douée en maths, finalement. Et elle s'en faisait part. De toute façon, les maths, pas un souci, je suis bonne. J'aurai aucun problème, elle a à peine révisé. De toute façon, je suis douée, ça posera aucun problème le jour du bac. Et elle était tellement sûre de son expérience, de ses capacités et de ses talents qu'elle s'est présentée au bac et elle a raté l'épreuve de maths. Et elle a dit, ce jour-là, j'ai compris que c'est mettre sa confiance dans l'homme, dans les talents, etc., qui pose problème. Mais elle aurait bien travaillé en comptant sur l'aide du Seigneur, je suis sûre qu'elle aurait eu une bonne note. Le problème, c'est chaque fois qu'on se confie dans ces choses-là. Donc, vous voyez la différence. De la même façon, un enfant extrêmement bien éduqué peut très bien faire des grosses bêtises. Eh oui, malheureusement. Il faut faire tout ce qu'on peut et faire confiance à Dieu pour le succès. Et là se situe l'équilibre du chrétien. je fais tout ce que je peux. Je fais au mieux de mes capacités. Je fais au mieux de mes études. Je fais au mieux de mon comportement au travail. Je fais au mieux pour supporter des patrons difficiles. Je fais au mieux. Et je me confie dans le Seigneur. Je prie. Et c'est cet équilibre qui va me permettre d'avancer. Hein, c'est l'histoire de la barque, là aussi, hein, entre les œuvres et la foi. Si je fais une, je travaille avec une seule rame, je vais tourner en rond. Mais si j'ai les deux, je vais bien avancer. Hein. Et je crois que c'est important. Je suis désolée, Florence, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais quand Florence est arrivée à la Société Générale, elle avait un chef qu'on continue. Enfin, on n'ose plus trop l'appeler grognon quand on en parle, mais personne ne l'aimait parce qu'il était désagréable avec tout le monde. Et je sais que Florence s'était fait un challenge, quoi, un défi de se dire, il va devenir gentil. Et elle était très gentille avec lui, toujours complaisante pour faire tout le boulot qu'il demandait, même s'il était grognon. Et parfois, je lui demandais comment va grognon. Et ces derniers temps, on n'ose même plus l'appeler grognon. Il est tellement devenu gentil et reconnaissant. Lui qui ne l'était jamais. Si vous voulez des détails, elle vous racontera. Mais je pense que c'est une illustration, je suis désolée de faire, mais c'est une illustration de ce qu'un chrétien peut changer en son environnement quand il utilise ses deux rames. Le travail, la conscience professionnelle, le souci de l'autre, la gentillesse et la prière. Quand on a les deux, la reconnaissance à Dieu aussi beaucoup, on avance. Et David avait ça. Alors pourquoi je peux me permettre de dire ça? C'est parce que c'est au moment de l'affrontement avec Goliath, déjà avant, quand il parle avec Saül, vous vous souvenez? Saül lui dit, mais t'es qu'un gamin, ça va pas, mais mon armure, l'armure ça marchait pas. Il dit, mais tu peux pas faire ça. Il dit, mais le Seigneur m'a délivré de l'ours et du lion. Et il me délivrera de ce géant de la même manière. Et je pense qu'il avait compris, David. Je choisis bien mes pierres, j'ai des années d'expérience, mais le Seigneur me délivrera. Vous voyez la différence? Mais il n'est pas venu en disant, j'ai jamais rien fait de mes 10 doigts, j'ai toujours essayé d'échapper au boulot, et puis maintenant, grâce au Seigneur, je vais gagner sur Goliath. Les deux. Et cherchons toujours à faire les deux. Alors, on n'est pas parfait, on y arrive plus ou moins bien, mais faisons tout ce qu'on peut pour avoir les deux, parce que c'est là que le Seigneur peut nous aider. À ce propos, j'ai réfléchi un petit peu à David tout à l'heure. Je pensais, David, quand on va lui demander, on va le voir dans le texte après, qui il est, il dit, bon, je suis le fils de Jessé. Il dit à un moment, mais je viens d'une famille pauvre. J'avais jamais remarqué ce verset. Donc bon, bah, il sait qui il est. Il sait qu'il n'est pas grand-chose. C'est pas un homme célèbre, tout au moins pas à ce moment-là. Il est conscient, mais ça n'a pas l'air de le tracasser. Hein. Ça n'a pas l'air de le tracasser parce que sa confiance n'est pas en lui. Elle est dans le Seigneur. Et moi, j'admire David qui a été capable, d'une part, de dire « Je viens d'une famille pauvre, je ne suis pas grand-chose. » On va dire « Oh, le pauvre, il se dévalue. » Non, c'est la réalité. So what, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis d'un autre côté, dire le Seigneur qui m'a délivré de l'ours ou lion, il me délivrera de ce géant. Être capable de faire les deux. Je suis rien, je suis pas riche, je suis un pauvre petit berger, mais je vais très bien. Hein. Et puis le Seigneur me délivrera. Vous hein, voyez cet équilibre qu'il avait, David. Je comprends que le Seigneur est craqué devant David. Vous savez, parfois le Seigneur il craque comme ça quand il nous voit faire quelque chose qui vraiment est à sa gloire. Moi, je le sens. Je sens que le Seigneur, il est là. Oh, c'est trop chouette. Et il y a ce côté chez le Seigneur. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais moi, j'en suis sûre. On sent son cœur qui est là. Et c'est ça. David, c'est ça. Et il avait cette humilité. Et l'humilité, c'est pas de dire je vaux rien, je peux rien, je suis rien. L'humilité, c'est de dire je suis ce que je suis, mais le Seigneur est avec moi. Il faut accepter, si je suis, j'ai du talent, je suis bon à la fronde, amen. Je n'ai pas peur de m'attaquer à un lion, c'est la vérité, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui en fin de compte me délivre? C'est le Seigneur. C'est cet équilibre extraordinaire qu'il avait David. Alors, l'affrontement, c'est un petit peu comme les films de cow-boy, hein, je trouve. Parce que, tel que c'est décrit dans la Bible, avec le Goliath qui avance un pas à la fois, puis le petit David qui est là, qui guette. L'attitude de Goliath, elle est choquante quand même. Hein. D'abord, il toise le gamin et il le méprise totalement. Sa jeunesse, sa petite taille, et puis son manque d'équipement. Hein. Ensuite, il réalise que trop c'est trop, il est vexé. Il est franchement vexé. Mais ce n'est pas un ennemi digne de lui. Il a honte de se battre contre un gamin comme ça. Et puis après, il rentre dans un temps de malédiction. Il maudit David par tous ses dieux. Tiens, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là? Apparemment, David, ça ne l'impressionne pas. Moi, j'aurais pas aimé hein, qu'on me maudisse par toutes sortes de dieux diaboliques. Là. Mais apparemment, lui, ça lui pose pas problème. Il est imperturbable. Et puis, il va plus loin, Goliath, du coup. Il lui annonce son avenir. Vous savez, notre ennemi, il a un avenir pour nous. Si Dieu a une destinée pour chacun de nous, l'ennemi, il a aussi un avenir pour nous. Et vous savez que ce qu'il veut, c'est égorger, voler, dérober, détruire. Et ses malédictions vont tout à fait dans ce sens-là. Et il est très descriptif quand il lui dit, et puis les oiseaux des champs et les bêtes des champs te mangeront. En gros, c'est ça. Sympa. Ça, c'était les projets de l'ennemi pour David. Et à côté de ça, nous, on sait, quand on lit l'histoire, évidemment, David, je ne sais pas jusqu'à quel point il en était conscient, mais nous, on sait que les projets de Dieu, c'est qu'il soit roi d'Israël. Vous voyez, les projets du diable et les projets de Dieu. Projet du diable, tu vas être dévoré par les bêtes des champs, les oiseaux. Et Dieu, tu vas être roi. Et le plus grand roi d'Israël. Je crois que quelque part, il a été plus grand que Salomon, à bien des égards pour l'ensemble de sa vie. Vous voyez un petit peu, et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Les projets du diable, je préfère même pas les évoquer, ça fait peur. Et pour chacun d'entre nous, le diable a des projets. Qu'on soit détruit. En tout cas, ça se résume à ça. Qu'on rate notre vie, qu'on rate notre mariage, qu'on rate notre travail, qu'on rate nos études. Il n'a que ça en tête. Pourquoi est-ce que vous croyez que le diable se sert de toutes sortes de choses dans le monde pour nous détruire? Parce qu'il a un plan. Et souvent, il faut qu'on soit attentif de ne pas voir... J'avais souvent le problème avec mes élèves, de ne pas voir... de la Bible, les conseils du Seigneur, les interdictions des parents, etc., comme quelque chose qui nous freine, qui enlève notre liberté, qui nous écrase. Parce qu'en fait, toutes ces choses, ces bonnes choses, sont là pour nous protéger. Et pour que le plan de Dieu puisse se réaliser dans nos vies. Pourquoi parfois on est obligé de gronder un enfant ? De donner une fessée, puisque c'est encore autorisé, parce qu'on veut les protéger. Ça a été annulé. Non, ça a été annulé. Et donc, pourquoi on est obligé de le faire? Parce qu'on veut les protéger. Alors, on est plus ou moins habile dans ce domaine, parce qu'on est humain, mais l'idée, c'est de protéger. Et les lois de Dieu sont là pour nous protéger. Parce que les plans du diable sont bel et bien là pour nous. Au travail, partout, le but du diable, c'est de nous casser, de nous détruire, de casser notre réputation. Et alors, ne lui donnons pas un coup de main par des mauvais comportements. Et les plans de Dieu, c'est qu'on puisse régner sur les difficultés. Ah, peut-être pas être roi sur la France, mais régner sur nos difficultés. Avoir le dessus sur nos problèmes, tout ce qui nous attaque, tout ce qui nous fait problème. Avoir le dessus, ça c'est le plan de Dieu. Avoir le dessous, c'est le plan du diable. Donc gardons toujours ça à l'esprit, parce que parfois le diable arrive à inverser les choses. Ah, oh, ton Dieu, il t'empêche de ci, il t'empêche de ça, il te rend malheureux, il t'oppresse. Et puis voilà, et on tombe dans un légalisme épouvantable. Et puis, alors que vraiment les plans sont clairs dans la parole de Dieu, Dieu nous construit, le diable nous détruit. En gros, ça se résume à ça. Il y a un avantage énorme chez David, c'est qu'il ne fait pas de ce combat une affaire personnelle. Et ça, ça m'a frappée. Dès le départ, il annonce pourquoi il est là. Il vient, il dit à Goliath, « Je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël. » Il ne dit même pas « Mon Dieu à moi tout seul », mais « Le Dieu des troupes d'Israël ». Et je pense que dans nos problèmes, dans nos soucis, est-ce qu'on ne devrait pas réagir comme lui? Je me suis posé la question à moi-même, parce que j'aime pas les problèmes, moi. J'aimerais que la vie soit un long fleuve tranquille. Je rêve d'un chemin recouvert de pétales de roses et pas d'ennui, rien. Je suis sûre que je ne m'ennuierai pas. Il y a des gens qui disent que ça les ennuierait. Non, moi, j'aimerais ça. Mais bon, c'est hélas pas la réalité. Et dans chaque combat, devant chaque ennemi qui se présente à nous, si on voulait bien réagir comme David. Mis à part le cas, bon, il y a le cas où nous, on a fait une grosse bêtise, on est en faute, et on n'a qu'une solution, c'est de demander pardon à Dieu et à la personne qu'on a offensée. Bon, ça, c'est le cas le plus simple pour un chrétien. On demande pardon et c'est réglé. Mais pour les autres cas, si on arrêtait de se centrer sur soi et de dire « c'est mon problème », ma difficulté, mon impossibilité, mon souci, mon fardeau. Et si on faisait comme David en se disant, tu viens m'attaquer ? Alors, on va faire une petite liste, mais elle n'est pas exhaustive. Hein. Avec la menace, la peur, l'angoisse, les pensées négatives, bon vous, ça vous arrive jamais, j'imagine. Les complexes de toutes sortes, la moquerie, la haine, la jalousie. Être victime de jalousie, c'est dur à vivre aussi. La colère, l'amertume, enfin vous mettez tout ce que vous ressentez. Et pouvoir dire à l'ennemi, eh ben, écoute, tu viens m'attaquer avec tout ça. Mais moi, je ne suis peut-être pas grand-chose, mais je te fais face au nom du Seigneur des armées. Est-ce que ça ne nous soulagerait pas ? De lui dire, comme David, j'aurai la victoire, parce que le Seigneur te vaincra pour moi et pour mon entourage. Et moi et mon entourage, on saura qu'il y a un Dieu. C'est une paraphrase de ce que David dit à Goliath. C'est-à-dire, je témoignerai de l'action de Dieu dans ma vie. Car le combat, qu'est-ce qu'a dit David, appartient au Seigneur. Si on pouvait en arriver là, et je me mets dedans, hein, parce que c'est pas évident quand il y a quelque chose qui vous embête, alors que ce soit une pensée négative, angoisse, tout ce que j'ai cité, de pouvoir dire à l'ennemi, écoute, ça suffit, je sais que tu veux me détruire, mais moi je te fais face au nom du Seigneur des armées. Je te fais pas face en mon nom, mais au nom du Seigneur des armées, parce que je suis son enfant, je suis son prince, sa princesse. David ne savait peut-être pas encore, je n'ai aucune idée s'il était conscient qu'il allait être roi. Je pense que ça ne le préoccupait pas du tout, car le combat appartient au Seigneur. Alors peut-être vous êtes comme moi, il y a des moments où on est fatigué. Fatigué de se battre. Parce que j'aime pas ça. Parfois, il y a des situations qui durent depuis longtemps, puis qui nous plombent. Si vous vous reconnaissez là, ça veut dire que vous êtes normal. Il y a des situations qui nous embêtent, il a fallu résister longtemps, on a subi la peur, le découragement ou la dépression. Et ça nous paralyse. Vous savez, un peu comme le serpent qui commence à bien vous regarder, là, puis on ne bouge plus. Et parfois, on est un peu hypnotisé comme ça par les problèmes. Alors, je voudrais juste vous dire, j'avais vraiment à cœur en préparant ce message, de dire à tous les gens qui se ressentent comme ça, Dieu ne juge pas. Dieu ne vous juge pas. Et surtout, vous culpabilisez pas. Ça ne sert à rien. Ça vous fait du mal. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu dit. Et s'il pouvait venir là, en chair, en os, à côté de vous, c'est peut-être la première chose qu'il vous dirait. Tu sais très bien que je ne te juge pas. Tu sais très bien que je comprends. Parce que vous savez, dans ces cas-là, le diable, il est malin. Il vous plonge dans la dépression, il vous attaque, il vous fait vous battre, vous fatiguer, vous lasser. Puis après, il vient vous voir en disant « Ah ah, t'es découragé, hein ? T'es pas un bon chrétien, hein ?» C'est facile, hein ? Il vous décourage et après, il vous accuse. Alors, sachez surtout que Dieu ne vous juge pas. Il n'est pas là pour dire « Ah ah, t'as pas lu ta Bible depuis 3 jours, t'as pas prié depuis tant de temps, t'es complètement en déprime, tu crois que c'est bien pour un chrétien ?» Non, Dieu n'est absolument pas comme ça. Et si vous avez quelque part dans votre tête cette image-là, priez pour la chasser. Parce que si Dieu a quelque chose à vous dire, c'est « prends courage ». Prends courage. La pire chose qu'il peut nous dire, c'est « prends courage ». Et puis, il faut peut-être prendre des mesures. C'est marrant parce que je l'avais écrit avant qu'on prie avec les gens avec qui j'ai prié ce matin. Peut-être il faut dormir un peu plus. Peut-être il faut prendre des petites vacances. Peut-être il faut éteindre la télé ou l'ordinateur pour dormir un peu plus tôt. C'est écrit, hein, je sais pas. Le diable utilise beaucoup la fatigue physique pour nous décourager. Donc, il faut peut-être aussi penser à ça. Il y a des choses concrètes. Comme disait mon pasteur autrefois, je refuse de prier pour les gens constipés. Il était drôle. S'ils ne boivent pas pendant la journée, je ne vois pas pourquoi moi je prierais pour eux. Il y a du vrai là-dedans. Hein. Il y a du vrai. Donc, si on se prive de sommeil, on est forcément fatigué. Dieu comprend l'armée. Vous savez, il n'y a aucun commentaire sur l'armée d'Israël dans ce texte. Dieu comprend l'armée qui est fatiguée. Dieu comprend l'armée qui est paralysée. Et il n'y a aucun jugement sur l'armée. C'est bizarre, hein ? On aurait pu dire, quand même, il aurait pu y avoir un petit commentaire du style, quand même, cette armée, l'armée du Dieu d'Israël, elle ne devrait pas être paralysée comme ça devant l'ennemi. Mais il n'y a aucun commentaire là-dessus. Dieu comprend tellement l'armée paralysée par la peur qu'il a envoyé David. Et Dieu comprend tellement son Église quand elle est fatiguée et découragée qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver, pour nous aider, pour nous tirer de la boue dans laquelle on a pu se plonger nous-mêmes, parfois volontairement, qui plus est. Mais il n'est pas venu pour faire des reproches, il est venu pour nous tirer de là. Et c'est vrai que parfois il nous dit, mais lâche, lâche des choses, et tu vois, ta main elle va sortir, tu vas retrouver ta liberté. Nous aussi on a notre David, et lui aussi, il a vaincu l'ennemi, c'est Jésus. Et on vient au nom de Jésus contre nos ennemis, tous ces ennemis qui viennent nous attaquer. Alors c'est pas toujours des ennemis en chair et en os, bon parfois ça peut être le patron, ou le mari, parce que vous savez les maris parfois... Mais Jésus est là. Vous avez remarqué d'ailleurs que l'ennemi ne tient pas ses promesses, entre parenthèses. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Goliath ? Il avait dit, celui qui gagnera, il soumettra, le peuple vaincu sera soumis à lui. Et à peine la pierre est allée dans le front de Goliath, que tous les Philistins se sont sauvés. Il ne voulait pas se soumettre au peuple d'Israël. L'ennemi ne tient pas ses promesses. Et quand il vous fait... J'y ai pensé en route, surtout, je pense aux jeunes, mais je pense à tout âge, on a ce problème. Quand le diable vous fait miroiter, « Oh, mais tu sais, si tu fais ça et ça, t'auras ça et ça. Et puis tu pourras obtenir ceci, et puis il y aura ça qui ira bien. » N'y croyez surtout pas. Les promesses du diable ne tiennent pas. Les promesses de Dieu, oui. Les Philistins vaincus ne se soumettent pas à Israël. David, jusqu'au bout, il est centré sur Dieu, qui sauve, qui délivre et qui donne la victoire. Et je crois que c'est ce que nous, on doit faire aussi. Parce que ce qu'il recherchait, ce n'était pas du tout sa propre gloire. Il était tranquille sur son identité. Oui, oui, oui. Avec ma fronde, avec l'expérience que le Seigneur a permis que j'ai. Voilà, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Il était tranquille, mais il n'est pas centré sur lui. Il est là pour le Seigneur et le Seigneur va lui donner la victoire. Il ne travaille pas pour sa propre gloire, il travaille pour celle de Dieu. Et j'ai écrit quelque chose qui m'a semblé bien là. Ça, parfois j'écris des choses et après je me dis, waouh, comment j'ai trouvé ça? Je pense que c'est le Seigneur. Pour une fois, c'est de moi. Ce qu'il ne faut pas oublier dans nos combats, c'est que si je me centre sur moi, je rencontre deux risques. C'est l'orgueil, si ça marche, et la dépression, si ça ne marche pas. Tandis que si je me centre sur Dieu, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il a les choses en main. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il aura les choses en main. Et qu'il tourne le mal en bien. Si jamais ça ne se passe pas comme je veux, on a eu la preuve ce matin, il va tourner le mal en bien. Et si par contre, dans toute ma vie, je suis centrée sur moi, ce que je veux, ce que je désire, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je crois, ce que j'imagine, ce à quoi j'ai réfléchi, ma sagesse, ouais, tout ça, ça c'est moi, moi, moi. Chaque fois que je suis centrée sur moi, dans toutes mes difficultés, je risque l'orgueil si ça marche bien et je risque la dépression si ça marche pas. Et c'est quand même gros comme risque. Parce que l'orgueil, vous savez, pour Dieu... C'est une des pires choses, c'est ce qui nous coupe des autres et de Dieu. Donc, essayons comme David de nous centrer sur Dieu dans nos problèmes, dans nos soucis. Je pense que je vais arrêter là. On verra ça dans 15 jours. Mais réfléchissons à ce que Dieu nous demande. Réfléchissons aussi comment on prend les problèmes de notre vie. Est-ce qu'on est très centré sur soi ou est-ce qu'on regarde un petit peu au-delà ? Seigneur, je fais partie de tes enfants. Je suis ton prince, ta princesse. Tu as des plans pour ma vie. C'est aller déjà au-delà de moi, je sens, je pense, je veux, je crois, j'espère, etc. Et si on passe au stade au-dessus, on est beaucoup plus heureux. On ne tombera pas dans l'orgueil si les choses marchent bien. On ne tombera pas dans la dépression si ça ne marche pas. Parce qu'on est conscient du plan de Dieu pour nos vies. Et n'oubliez jamais que si vous êtes dans des difficultés, dans la déprime, tout ça, refusez les accusations de l'ennemi. Et dites, Jésus a été envoyé pour me sortir de là. Et quand l'ennemi vient vous dire votre avenir, comme on dit, c'est une blague, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas de moi. Quand l'ennemi vient vous dire votre avenir, il veut vous détruire, rappelez-lui le sien. Qu'est-ce qui a été prévu ? Qui sera lié pour l'éternité. Donc, le Seigneur est avec chacun d'entre nous, qui nous fortifie dans toutes nos difficultés. On a eu des témoignages encourageants. Merci Seigneur.